The meeting point for self-reliant youth.
Bonsoir, ici Dieudonné Oumba, c'est la voix du palais. Bienvenue à cet autre numéro de votre programme radiophonique consacré à l'activité et à l'action du président de la République. Paul Biya, encore et toujours avec les partenaires du Cameroun pour le bien du Cameroun. Avant-hier, c'était en Russie, hier, c'était en France et tout récemment, c'était en Chine pour porter la voix du Cameroun et même du continent africain. Le chef de l'État vient de séjourner dans l'Empire du Milieu pour parler de la coopération entre la Chine et l'Afrique, mais également entre la Chine et le Cameroun. Encore des échos sonores de ce rendez-vous, la voix du palais, ce sera la voix du président Paul Biya, bien sûr, mais également celle de ses légats. Parmi ces derniers, Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, également depuis la chaire UNESCO. Le président Paul Biya s'est rendu récemment en Chine. C'était à l'occasion du 4e sommet du Forum Chine-Afrique. Revivons le départ, puis la suite de ce séjour fructueux du président de la République et de son épouse dans l'Empire du Milieu. D'abord, le départ du président Paul Biya et de son épouse, Madame Chantal Biya, de Yaoundé.
Ciel quelque peu nuageux au-dessus de la capitale, ce lundi 2 septembre 2024. Mais ce temps maussade n'aura été d'aucun obstacle pour le voyage du président Paul Biya et de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, en direction de la Chine. La volonté et la détermination du chef de l'État camerounais à participer au prochain sommet Afrique-Chine auront primé. Chemin pour l'Empire du Milieu, Paul et Chantal Biya auront eu déjà droit aux ovations des populations avant l'aéroport international de Yaoundé Simalène. Ces ovations atteindront leur point culminant à l'aéroport avec la présence des groupes de danse, notamment en Konkwa, et un détachement des militants RDPC de la Mefouya Famba Sud. Sans tarder à leur descente de la limousine, Paul et Chantal Biya vont arpenter le tapis rouge en direction de l'aéronef, un Airbus A330. Mais le couple présidentiel va d'abord sacrifier au rituel des civilités. Le premier ministre chef du gouvernement et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, sont au bas de la passerelle pour les au revoir. Paul et Chantal Biya vont ainsi serrer la main à Joseph Dion Nguté et Ferdinand Gongo. Le président de la République ne manquera pas d'échanger quelques mots avec ses officiels. Le chef de l'État et son épouse prendront ensuite place dans l'aéronef. Il est 11h10 lorsque l'Airbus A330 quitte l'asphalte de Nsimalène en direction de Beijing.
Ensuite, l'arrivée du couple présidentiel à Beijing.
9h30, heure de Beijing, 2h30 au Cameroun. Dans le bal des aéronefs qui se posent et décollent sur le tarmac de l'aéroport international de Beijing, celui transportant le couple présidentiel camerounais, Paul et Chantal Biya. Ils étaient attendus, ils sont bel et bien là, trêve de conjecture. Affichant une sérénité et une assurance des grands jours, le président de la République reçoit à sa descente d'avion un accueil en deux temps qui mêle solennité et discrétion, dans le pur respect de l'hospitalité chinoise. Une première poignée de main à sa descente d'avion à Wang Hui, vice-ministre de l'Habitat, et à Madame Pang Lichuen, vice-présidente de l'Assemblée nationale populaire de la municipalité de Beijing, loin des objectifs des caméras. Et dans un second tableau, Son Excellence Martin Pana, ambassadeur du Cameroun à la République populaire de Chine, doyen du corps diplomatique, et son épouse Solange Mpana se chargeront de souhaiter dans un bain rafraîchissant de fraternité la bienvenue à Paul et Chantal Biya. Dans le même temps, des honneurs tout à fait singuliers seront rendus au président de la République par un détachement spécial de l'armée nationale de la République populaire de Chine. Au même moment, tels des oiseaux vibrants sur un grand baobab, un carré d'adolescentes va offrir un ballet très coloré à Paul et Chantal Biya. Le 4e sommet du Forum de coopération sino-africaine affiche quasiment complet. Le cortège présidentiel camerounais peut alors s'ébranler à travers les larges avenues de Beijing pour l'hôtel Saint-Régis, son lieu de résidence pendant son séjour en Chine. Pour son 8e déplacement dans ce pays si lointain mais si proche, Paul et Chantal Biya ont choisi de prendre comme en 2018 leur quartier dans ce luxueux palace qui leur est déjà familier. Et ici, une autre agréable surprise les attend. En prélude à leur arrivée, les responsables de l'établissement hôtelier ont mis les petits plats dans les grands. Un dispositif sécuritaire des plus dissuasifs, le drapeau national vert, rouge et jaune frappé de son étoile dorée qui flotte fièrement au vent, et le premier bouquet de fleurs au couple présidentiel à sa descente de voiture. À la vue de la limousine présidentielle, une ferveur toute particulière s'empare des membres de la colonie camerounaise vivant en Chine, eux qui, malgré les distances et toutes les contraintes sécuritaires, ont tenu à venir communier avec Paul et Chantal Biya. À l'intérieur du palace, le président de la République et la première dame reçoivent deux jolis bouquets de fleurs de la petite Malika Zao et du petit Gabriel Etoumbida.
Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya, le personnel de l'ambassade et la communauté camerounaise en Chine vous souhaite une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Beijing.
Pendant ce temps, les membres de la suite officielle du Président de la République et les personnels de la représentation diplomatique en Chine sont eux aussi déjà impatients de serrer la main au couple présidentiel camerounais. Une fois rendus à l'intérieur de l'hôtel, la première poignée de main du président Biya sera à Joseph Beti Assomo, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, suivi par le jeune Belan Bela, le ministre des Relations extérieures, et Paul Atanganji, le patron de l'administration territoriale. Avec une égale décontraction, le président Biya et la première dame saluent les ministres chargés des missions à la présidence de la République, Victor Mengot, Alamine Ousmane Meh de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, Jean-Ernest Ngalé-Bibé des transports, Gabriel Mbayrobé de l'agriculture et du développement rural, Foukalistous Gentry, le ministre par intérim de l'industrie, des mines et du développement technologique, qui précède le directeur général de la compagnie nationale aérienne, Camerco, les responsables de la présidence de la République et ceux de la mission diplomatique du Cameroun en Chine. Le ton est ainsi définitivement donné à ce quatrième forum du sommet de coopération sino-africaine présenté ici en Chine comme le plus grand rendez-vous diplomatique de l'année. Ainsi donc, autour de Xi Jinping, le président hôte et les dirigeants africains dont Paul Biya du Cameroun, les participants à ce rendez-vous vont pendant 3 jours s'atteler à construire une nouvelle communauté sino-africaine, une communauté de destin à même de faire bouger les lignes et de rendre plus audible leur voix dans la nouvelle gouvernance mondiale. Et pour le président Biya, dont la présence était particulièrement attendue ici, le déplacement de Beijing sera tout sauf une balade de santé.
À Beijing, Paul Biya a eu les échanges avec son homologue chinois Xi Jinping au cours d'une séance de travail. Nous écoutons le chef de l'État camerounais.
Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que les autorités et le peuple chinois ont bien voulu me réserver, ainsi qu'à mon épouse et à la délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans votre beau et grand pays. Je tiens aussi à vous exprimer notre gratitude pour cet entretien bilatéral qui nous donne l'occasion d'évoquer nos principaux dossiers et projets conjoints. La participation du Cameroun au 4e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine s'inscrit dans le sillage de la longue tradition des excellentes relations qu'entretiennent nos deux pays. La fructueuse coopération entre la République du Cameroun et la République populaire de Chine, ainsi que l'amitié toujours plus grande entre nos peuples, ont hissé notre partenariat à un niveau élevé que nous souhaitons stratégique. Il me plaît de saisir l'opportunité de ce séjour, qui est mon 8e en terre chinoise, pour vous réitérer mon invitation à effectuer une visite d'État au Cameroun. Ce sera une bonne occasion de célébrer nos relations diplomatiques déjà vieilles de 53 ans et de consolider le partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et le Cameroun. S'il est vrai que le niveau actuel de nos échanges est déjà appréciable, je reste convaincu qu'avec une stratégie mieux ciblée, les produits échangés, leur tonnage et leur valeur pourront encore augmenter de manière significative. Je me félicite de la part prépondérante qu'occupent les investissements directs chinois dans le développement de mon pays. Cela est observable à travers la construction de diverses infrastructures d'envergure, notamment les barrages hydroélectriques, les centrales à gaz, les infrastructures routières, hospitalières, portuaires, sportives, etc. Sans oublier l'immeuble futuriste qui va abriter l'Assemblée nationale du Cameroun. Malgré les effets des multiples crises exogènes et endogènes auxquelles il fait face, le Cameroun demeure un pays attractif du fait de sa position géostratégique en Afrique centrale, de sa stabilité institutionnelle, de son capital humain et de la diversité de ses ressources naturelles, entre autres. Dans sa quête de progrès et de modernité, le Cameroun a besoin de financements additionnels importants pour poursuivre sa vision d'émergence à l'horizon 2035.
En Chine, le chef de l'État, accompagné de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, avait également à sa suite une forte représentation du gouvernement de la République et de la société civile. Armand Colabanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, était également à Beijing avec une ou deux casquettes. Il nous livre ici les enjeux et le bénéfice de ce séjour. Armand Colabanda, bonsoir. Vous êtes le représentant résident de l'IAI Cameroun et vous venez de séjourner en Chine, et ce en marge du 4e sommet Chine-Afrique. En quoi est-ce que ce que vous avez ramené de ce pays-là, de l'Empire du Milieu, peut servir au Cameroun et à l'Afrique?
Mais le séjour en Chine a été un séjour fructueux, surtout qu'il a été auréolé de la présence personnelle du chef de l'État, le président Paul Biya, lui-même. On l'a vu assister aux réunions, on l'a vu négocier, discuter avec ses pairs. Lorsque nous, de notre côté, dans des activités annexes, parce que nous étions là-bas dans le cadre d'une activité du sommet Chine-Afrique qu'on appelait Consortium Chine-Afrique-UNESCO. Et ce consortium réunissait les grands managers des institutions universitaires d'Afrique, les grands managers des grandes firmes et industries qui œuvrent dans le digital, dans les travaux publics. On avait également un certain nombre d'hommes d'affaires triés sur le volet. Donc, c'était à peu près 200 personnalités qui ont été invitées par la Chine. Évidemment, tout ce qui a été fait l'a été dans l'objectif de fructifier des actions déjà initiées entre la Chine et l'Afrique. Donc d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'aller plus efficacement pour que l'Afrique puisse davantage profiter des opportunités technologiques de la Chine. Bon, bien évidemment, la Chine, elle aussi de l'autre côté, a besoin qu'elle ait une meilleure visibilité, que les Africains s'orientent de plus en plus vers la technologie chinoise, aussi bien en matière de BTP qu'en matière de digital. Et donc, cette réunion qui a aussi intégré la présence de l'UNESCO, c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles ma sélection dans le cadre de ces invitations a été également facilitée, étant donné que je suis titulaire d'une chaire UNESCO. Cela donc s'est très très bien passé et il y a eu plusieurs ateliers qui ont permis de s'orienter vers des stratégies de coopération.
Justement, pour être plus concret, est-ce que, on sait que vous allez régulièrement en Chine et avec parfois vos étudiants, est-ce qu'il y a quelque chose de concret cette fois-ci que vous avez pu ramener?
J'y viens. Donc, dans le cadre des ateliers, nous avons discuté un peu des meilleures orientations en matière de coopération académique. Et puis, il y a eu des B2B, c'est-à-dire que on a rencontré, à titre personnel, certains présidents d'universités chinoises, certains PDG de firmes dans le domaine digital, donc qui font que peut-être bientôt on aura une coopération avec des grands laboratoires chinois dans le plan, sur le plan digital, sur le plan aussi de robotique, parce que nous avons visité une université qui est très réputée dans la robotique et dans l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça a été un bon séjour. Et par la suite, donc, pour être encore plus concret, j'ai eu à visiter quelques universités. Alors, l'université de Jiangsu qui a confirmé son programme quinquennal de 75 bourses pour 5 ans, donc à raison de 15 bourses par an. Et la meilleure des meilleures, c'est cette autre université qui a décidé de nous offrir chaque année 100 bourses sur un plan académique de 2 plus 2, c'est-à-dire que les étudiants qui sont admis et sont boursiers font 2 années d'études à l'IAI et vont ensuite faire 2 années d'études en Chine pour avoir un bachelor. Et par la suite, donc, ils peuvent continuer, ils peuvent demander des bourses là-bas pour aller plus loin en doctorat, ou alors revenir travailler en Afrique. Et dans ce cas, ils sont recommandés par le gouvernement chinois auprès des entreprises chinoises qui travaillent en Afrique dans le cadre soit du digital, soit des travaux publics, du génie civil. Vous savez que c'est ces domaines-là dans lesquels les Chinois excellent beaucoup dans nos pays africains. Donc, il y a eu de bonnes perspectives qui ont été confirmées. Il y a de nouvelles perspectives qui ont été gagnées. Et je crois que la présence physique du président de la République, le président Paul Biya, y a été pour beaucoup. Parce que moi, je me rappelle, lorsque je suis allé à Jiangsu, à l'université de Jiangsu, au cabinet du président de l'université, la première chose qu'il a eu à faire, c'est de me montrer la photo du tête-à-tête entre les deux chefs d'État, le président chinois et le président camerounais. En fait, comme pour me dire que nous sommes dans la belle foulée politique, parce que nos deux chefs d'État se sont rencontrés, ce que nous faisons aussi n'a de ce fait que beaucoup de bénédictions. Donc, je pense que nous sommes rentrés heureux, contents de ce que nous avons fait en Chine et je dois dire encore merci au président Paul Biya.
Bien avant la Chine, Paul Biya, grand patriarche et sage africain, était également invité en France. L'on parle là de la libération de la France, où les Africains, dont les Camerounais, n'ont pas joué un rôle négligeable. Écoutons le chef de l'État camerounais qui a pris parole à l'occasion.
Monsieur le Président de la République française, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les chefs de délégation, mesdames et messieurs, je voudrais de prime abord remercier le Président Emmanuel Macron pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je prenne part au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Je voudrais le remercier également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Je salue ensuite votre présence ici. Vous tous qui avez effectué ce déplacement, pour vous retrouver en ce lieu inauguré en 1964 par le général de Gaulle, alors président de la République, en présence de nombreux combattants de France et d'Afrique, à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire, un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donner leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, Les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de l'Atte de Tassi, ont combattu avec bravoure, étaient pour un grand nombre originaires de tout l'empire colonial français, qui venaient entre autres de l'Afrique subsaharienne. C'est dire que la contribution de l'Afrique a été significative pour rompre les chaînes de l'occupation allemande. Une occupation dure, une occupation liberticide dont les troupes avaient reçu ordre de tenir jusqu'à la dernière cartouche. Le ralliement des territoires de la France libre a en effet constitué un enjeu majeur pour l'apport à la victoire finale a été significatif. C'est entre autres dans le but de lever les troupes en Afrique, alors considérées comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe, que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes dont le colonel Leclerc prend ainsi le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun. C'est de la ville de Douala que partent les expéditions qui, plus tard, ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie et par la Corse ensuite, sans omettre le Tchad. Partout où les combats les ont menés, ces malheureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour du souvenir, nous leur devons un immense respect. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs, il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. Elle exprimait une vision de l'homme et du monde qui nous est commune. Au nom de celle-ci, nous avons ensemble combattu côte à côte. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. Cette vision-là reconnaît à chacun de nous un droit égal à la dignité. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures afin d'éviter les erreurs commises par le passé. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramèneraient dans le monde d'aujourd'hui une plus grande paix. C'est aussi cela le sens de notre présence ici. Excellences, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la deuxième guerre mondiale reste et demeure perfectible. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter, de construire un monde à son unique avantage, sont entre autres les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements, la construction des blocs fait son retour. La guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre les conflits. En définitive, je veux ici saluer l'organisation de cette commémoration qui constitue une excellente occasion d'encouragement de la solidarité entre les nations pour construire la paix et faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps. Je vous remercie de votre aimable attention.
fin de cette édition de votre programme, La Voix du Palais, avec la coordination de Yves-Marc Medio, préparation et présentation Dieudonné Oumba. Merci à toutes nos équipes. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidèle écoute. Vous nous écouterez encore certainement dans 2 semaines. Merci.